Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je reçois Anaïde Rosam, créatrice de contenu et comédienne. Avec Anaïde, on a le même âge, donc ça a été hyper intéressant d'échanger sur nos parcours respectifs, sur le métier d'influenceur slash inspirateur, et ce que cela signifie vraiment, et la pression qui existe aujourd'hui sur les réseaux sociaux. On parle de nos études, de développer des projets en parallèle, de savoir exister pour soi et d'être prudent avec l'importance accordée à la validation des autres. Enfin, on débat aussi de beaucoup d'autres choses, de l'évolution du métier d'acteur, de notre rapport à la créativité et des vertus de l'échec. Si cet épisode vous plaît, c'est sur Apple Podcasts que vous pouvez me le faire savoir, en laissant un petit 5 étoiles et quelques lignes sur pourquoi vous avez apprécié ce podcast. Je remercie cette semaine Manon, qui a écrit l'avis suivant. Bonjour Louise, tout d'abord j'espère que tu vas bien. Ensuite, je voulais te dire merci. Merci pour ta bienveillance, tes conseils et ta joie de vivre. Je suis actuellement en plein questionnement sur ma vie, ce que je suis vraiment, etc. J'essaie de changer ma manière de penser et tu m'aides tellement dans cette démarche. Merci encore et continue parce qu'on a besoin de personnes comme ça pour nous aider. Merci beaucoup à toi Manon d'avoir pris le temps d'écrire ces quelques lignes qui me touchent beaucoup et bravo d'essayer chaque jour de prendre le pouvoir de ta vie. Si vous n'êtes pas sur Apple Podcasts, vous pouvez vous abonner sur SoundCloud, Deezer ou encore Spotify pour recevoir gratuitement tous les prochains épisodes. Et je suis ravie de vous inviter maintenant à rejoindre cette conversation avec Anaïde. C'est juste que souvent, comme ça, je commence à parler à mes invités et je suis là, putain, c'est intéressant, venez, ma communauté me rejoint. Mais du coup, c'est très vrai ce que tu dis. Et quand j'ai annoncé sur YouTube le lancement de ma marque de lingerie éco-responsable, j'ai vraiment insisté, et d'ailleurs quand j'avais fait avant ma vidéo comme quoi j'annonçais que j'arrêtais d'acheter, ou du moins je me tournais vraiment vers la mode éthique, j'avais fait vraiment attention à, tu vois, bien dire que personnellement je trouve qu'il faudrait encourager chaque pas dans la bonne direction, parce que en fait sinon ça a un effet vraiment contraire, j'imagine, à ce que souhaitent même les personnes qui critiquent, qui bien est sûr. De dire qu'en fait t'en fais pas assez, que ça suffit pas,
ouais,
et du coup bah au final les gens ne font rien. Donc entre ne rien faire et faire un pas en avant, c'est déjà cool de faire un pas en avant. Et j'imagine que ce que tu veux dire, ouais, c'est par rapport au sujet un peu féminisme.
Ouais, féminisme et même de tout, tu vois. Par exemple, moi je vois, je pense que je peux citer son nom parce que c'est en faveur d'elle, mais par exemple Coucou les Girls, tu vois, elle est beaucoup pour la cause des femmes, des femmes assassinées, des femmes battues, et j'avais vu une story d'elle où elle disait bah en fait c'est chiant parce que comme je défends une cause, je reçois plein de messages d'autres personnes qui me disent ouais mais pourquoi tu défends pas la cause des homosexuels, des trucs, nan, et il y a un truc un peu qui s'inverse où il faut pas que le fait de faire des choses, du coup, on nous critique sur le fait de pas être universel, tu vois. Et moi, je m'en rends de plus en plus compte parce que j'ai de plus en plus d'abonnés. J'ai un peu de mal parce que je... Tu vois, parfois, je partage quelque chose, je partage un don à faire pour l'Amazonie. Et donc, on m'envoie 30 000 trucs écolo, mais j'y connais pas encore assez, je m'y connais pas encore assez, donc je partage pas. Et on me dit, ah bah voilà, d'accord, ok, donc en fait, tu t'y intéresses pas beaucoup. Non, c'est juste que...
T'as un travail à faire aussi avant, de recherche et tout, quoi.
À son rythme et... Et on n'est pas tous présidents de la République aussi, tu vois.
Non, mais c'est hyper vrai. Et c'est quelque chose aussi avec lequel j'ai vachement mal, même en termes de collaboration, tu vois.
J'ai l'impression que plus tu t'engages, plus t'es critiqué, en fait. Parce que je sais pas quel message tu dois recevoir, mais on doit voir que t'es bien engagé. Et si t'oublies un truc, gare à toi, tu vas te faire lyncher par tout le monde, tu vois.
Après, en fait, je trouve que c'est dommage parce que je pense que c'est pour ça que la plupart des... d'influenceurs slash inspirateurs, comme j'aime les appeler, n'osent pas s'engager parce qu'ils ont vachement peur de la critique. Et honnêtement, personnellement, j'ai très peu de haine. Au contraire, je pense que ça fait du bien à notre communauté, tu vois, de voir qu'il y a des gens qui se mouillent parce que, en fait, je trouve que c'est de la lâcheté de ne pas vouloir s'engager, surtout sur... Enfin, tu vois, moi, justement, je dis, t'as pas forcément 10 000 causes qui te tiennent à cœur, mais t'en as forcément une, on en a tous. Et ben, c'est bien de prendre la parole sur le sujet. Mais c'est vrai que j'ai du mal, personnellement, à savoir quand dire non ou pas, parce que, encore cette semaine, tu vois, j'ai été contactée pour la journée de la santé mentale en octobre. Mais du coup, il y a quelqu'un qui m'a contacté pour parler de la dépression, quelqu'un d'autre de la schizophrénie. Est-ce que je fais les deux? J'ai aussi après l'Octobre Rose qui est hyper important aussi pour les femmes victimes de cancer du sein. Enfin, en fait, t'as toujours des trucs. Et en fait, c'est vrai que c'est hyper difficile parce que t'as l'impression que t'as pas le droit, en fait, d'hésiter.
Il y a un paradoxe énorme, c'est-à-dire que toi, quand tu te donnes pour une cause, t'as un truc très altruiste, très empathique par rapport à la cause. Mais tu peux avoir un retour des gens qui va être très égocentrique, dans le sens, tu ne t'intéresses pas à ma cause, donc tu n'es pas avec moi. Enfin, en tout cas, tu n'es pas... tu n'es pas altruiste, alors qu'en fait, c'est complètement le contraire, tu vois. Il y a parfois un retour qui n'est pas égal et pas compris de tous, tu vois.
C'est très vrai. Après, je pense qu'il faut... Si toi, t'es à l'aise avec toi-même, et je pense que c'est notamment le cas de Juliette de Cuckoo Girls, elle arrive à passer au-dessus, tu vois. Elle sait qu'elle, elle le fait pour ses raisons. Et que, bon, voilà, même si ça fait jamais plaisir de se prendre des terrains égoïstes, tu sais au fond de toi que tu l'es pas.
Ouais,
et que c'est juste la personne qui n'a pas compris. Mais c'est vrai que c'est un travail qu'il faut réussir à faire, quoi.
Ouais, moi, je sais que, par exemple, j'ai mon compte depuis 8 mois. Et pareil, j'ai pas énormément de messages horribles, tu vois. Mais quand j'en ai un, je me dis, oh là là, à plus grande échelle, ça va être dur. Et il faut... Ça, c'est un sujet qui m'intéresse pas mal. Parce que, tu vois, j'en parlais, j'avais fait une interview sur Malti. Et je disais que, tu vois, en ce moment, c'est très à la mode d'avoir Instagram. C'est très à la mode le métier d'influenceur. Tous les jeunes qui savent pas trop où ils veulent aller plus tard, ils veulent faire influenceur. Sauf que le problème, c'est que... Ça, c'est l'envers du décor, c'est aussi les haters. On peut t'enlever ton estime de toi si t'es pas bien dans ta peau, si t'as pas fait un travail. Et ça, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup parce que je me dis que ça peut aller. Ça peut être très bien que les jeunes prennent la parole et qu'ils veulent influencer dans le bon sens, mais ça attire aussi des gens de plus en plus jeunes. Moi, je sais que ma cousine qui a 10 ans, elle est beaucoup, beaucoup sur Instagram, elle met des photos d'elle. Et je me dis que. Bon, là, on part sur un autre sujet, mais tu vois, ça peut être aussi très dangereux et. Il faut prendre la parole quand on est prêt aussi, quoi.
Carrément. Et t'as raison, c'est souvent les plus jeunes, parce qu'en plus, ils réalisent moins, je pense, que ça implique. Parce que je trouve que notre génération, si je me trompe pas, on est de la même année en plus, peut-être 97.
Exact.
Voilà. Notre génération, j'ai l'impression que même si ça fait un peu rêver, ils se rendent compte de ce que ça demande. Et par exemple, ma sœur jumelle, parfois, il y a des gens qui me disent « Mais toi, t'aimerais pas faire comme ta sœur et tout ?» Elle est là genre « Ah mais non, pas du tout. » Parce qu'elle voit à quel point je travaille, elle voit à quel point t'as pas de différenciation vie pro, vie perso et à quel point, en fait, t'as une responsabilité, un enjeu et elle n'en veut pas, tu vois.
C'est devenu
alors
un
les enfants
métier,
de 10 à 14, ils s'en rendent vraiment pas compte et ils voient que les paillettes et un chiffre. Et ça, c'est vrai que c'est hyper dangereux, quoi.
Ouais. Bah oui, parce qu'en fait, c'est un nouveau métier. Maintenant, je vois, moi, sur Instagram, je suis toujours en découverte, mais je vois qu'il y a des agences pour influenceurs, il y a des influenceurs dont c'est le métier. Et c'est vrai que les jeunes, du coup, ne voient que les paillettes et les strass, mais c'est devenu un... Enfin, en fait, les influenceurs gouvernent un peu le monde. C'est-à-dire que les marques passent par les influenceurs, les associations passent par les influenceurs. C'est les personnes qui sont les plus vues au monde. Et c'est pas juste poster des photos en vacances, tu vois. Il faut aussi prendre en compte que tu influences des gens très jeunes, des gens de plus en plus jeunes. Il y a des enfants qui ont 5 ans qui ont Instagram. Hein. Donc, c'est pas du tout... c'est plus à négliger, en fait.
Je suis totalement d'accord et c'est pour ça que j'en appelle souvent...
Moi, je fais attention à mes moindres faits et gestes, maintenant.
Ouais. J'en appelle souvent à la responsabilité justement des influenceurs parce que, et c'est pour ça aussi que je trouve ça important qu'on parle de causes qui nous tiennent à cœur parce que comme tu dis maintenant on a de l'influence et un pouvoir, mais tu vois je pense qu'on n'a pas un métier si nouveau dans le sens où au final c'est un peu juste une redéfinition de ce qu'étaient avant les personnalités publiques. Tu vois, toi, tu vas être comédienne et on va en parler parce que c'est marrant. On a 10 minutes du podcast, on n'a toujours pas parlé de qui tu es, mais Anaïd va se présenter. Au moins, j'ai lâché son nom.
Bientôt.
mais c'est en soi, les acteurs, les chanteurs, les personnes qui étaient sur le devant de la scène ont toujours eu ce rôle d'influence. C'est juste que les réseaux sociaux leur ont donné une voix encore plus importante et une visibilité encore plus importante. Mais tu vois, avant, c'était à eux qu'on vous appelle pour des campagnes de publicité, qu'on voyait sur les pubs à la télé et tout. Donc je pense qu'au final, c'est juste que le spectre s'est agrandi et que peut-être que nous, comme on est des personnes, entre guillemets, de la vraie vie, voilà, on a une proximité qui est encore plus importante. C'est là où je pense qu'en fait, c'est pas si révolutionnaire que ça, tu vois.
C'est pas si révolutionnaire, mais je pense qu'il y a quand même un truc un peu plus dangereux dont les gens se rendent pas vraiment compte. C'est que en effet, comme tu dis, c'est pas si nouveau, mais le problème, c'est qu'on est dans la culture du zapping, du rapide. Et donc, en fait, un influenceur qui va avoir la même influence qu'un acteur d'avant, quand Internet n'existait pas, ou en tout cas n'était pas aussi présent, le problème, c'est qu'un influenceur, il peut tout changer avec une story qu'il fait de manière très inconsciente. Je sais pas, tu peux, par exemple... Je dis n'importe quoi, filmer un objet qui où tu le fais de manière très inconsciente et de manière très naïve, c'est vu par un milliard de personnes, et tu peux être dans la merde aussi, tu vois. Donc c'est pareil, mais
la portée est plus importante.
La portée est plus importante et plus rapide, et surtout et plus dangereuse dans le sens où il y a une réaction du public en direct. Avant, les comédiens n'avaient pas ça. Enfin, ils avaient peut-être une réaction à des conférences, à des avant-premières. Mais là, elle est virtuelle, mais elle est quand même présente, tu vois.
Et c'est vrai qu'en fait, du coup, c'est encore plus dangereux et dur à vivre. Parce que c'est vrai que je pense qu'au final, les acteurs, il y a 60 ans, À part le fait qu'il devait se faire reconnaître dans la rue, ça devait pas être si difficile que ça. Mmh. Alors que bah, récemment, par exemple, Marie dans Joy Phoenix, je sais pas si t'as suivi, mais elle s'est pris une grosse vague de haine que j'ai défendue parce que je trouve ça incroyable qu'on puisse être aussi virulent et qu'on puisse... Enfin, en fait, la méchanceté gratuite, c'est un truc qui me dépasse. Mmh. Et tu te dis, mais les conséquences peuvent être horribles. Je veux dire, heureusement qu'elle est assez mature et que c'est pas la première fois, malheureusement d'ailleurs, qu'elle doit faire face à ce genre de comportement. Mais une personne fragile... Enfin, on sait qu'aujourd'hui, c'est ce qui mène au suicide et que enfin, y a une forme de harcèlement en ligne.
Bien sûr.
Et c'est pour ça qu'on était assez démunis quand on s'est appelé. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et moi, je lui ai dit, pour moi, le seul truc qu'on peut faire, c'est en appeler au bon sens des gens. Tu vois, parce que je pense qu'il y a quand même, on a tous du bon sens, ou en tout cas une grande majorité. Et tu vois, on a fait une soirée, on a relayé en gros un peu les 5 questions à se poser avant de laisser un commentaire sur la photo de quelqu'un, tu vois. Mais c'est juste se demander, est-ce que toi, ça te ferait plaisir de le recevoir? Est-ce que t'aimerais qu'on lâche ce commentaire à ta mère? Enfin, tu vois, est-ce que c'est vraiment utile? Juste parce que c'est ça qui est triste avec les réseaux, c'est que parfois les gens oublient.
En fait, c'est beau et c'est à la fois moche parce qu'on est dans la. On est dans une. Comment on dit?
Une dualité.
Attends, non. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est à la fois beau et moche que tout le monde puisse s'exprimer. On est dans la... Comment on dit l'expression de...
Alors, je vois pas où tu veux en venir, sinon je t'aiderais parce que j'adore aider les gens à trouver les mots.
Putain, mais c'est un terme que je
dis
tout le temps.
C'est à la fois beau et moche
de
s'exprimer.
Attends, en gros, je veux dire, on est dans la culture de le fait qu'on s'exprime, que tout le monde puisse s'exprimer.
Bah alors, c'est la liberté d'expression.
Voilà, la liberté d'expression. Okay. Putain, ça doit être un truc à analyser en psychologie, parce que le fait que j'arrive pas à trouver le mot, c'est très...
révélateur,
c'est un acte manqué. Non, mais c'est à la fois beau et moche qu'on soit ouais. dans la liberté d'expression, parce qu'on donne la parole à des gens, à tout le monde, mais malheureusement, on donne aussi la parole à des cons, et en direct, en plus. J'en reviens aux acteurs d'avant, je veux dire, les seules critiques qu'ils pouvaient avoir, c'était des gens à peu près intelligents, ou en tout cas qui par exemple, c'est dans des critiques journalistiques, des critiques de cinéma. Là, tout le monde a la parole, même les cons. Donc le problème, c'est que le revers, il est un peu plus dur à gérer, et en grande masse, et avec des gens de plein d'avis différents, et avec aussi du respect qui n'est pas forcément là, quoi.
Ouais.
Donc c'est beaucoup plus dur à gérer.
Non, mais c'est hyper intéressant. Et du coup, moi, je me demande qu'est-ce qui, toi, t'a poussé à créer un compte Insta. C'est vrai que je savais pas que c'était aussi récent. Et du coup, bah, quel est ton avis maintenant que t'es sur la plateforme
Alors, moi, j'ai créé un compte Insta. Alors déjà, pour te dire, moi, j'ai toujours voulu être comédienne depuis toujours. J'ai fait une fac de psycho parce que mes parents m'ont dit qu'il fallait pas trop prendre la confiance non plus. Mais en parallèle, je faisais des cours de théâtre. Et en gros, j'ai fait ce compte Instagram vraiment en parallèle, à côté de mes cours. J'ai commencé donc il y a 8 mois, à la fin de l'année scolaire de l'année dernière. Et je me suis vraiment dit... au début, il était en privé, ce compte. C'était pour faire rire mes copains, parce que mes copains me disaient que voilà, mes stories étaient drôles et que c'était con qu'elles disparaissent. Et donc, j'ai fait ce compte qui est très vite devenu public. Et je me suis dit, bon, de toute façon, ça va pas marcher. Et en fait, ça a été totalement le contraire. Ça a très bien marché. J'ai eu de plus en plus de followers. Et donc, j'étais très contente, mais... Le truc, c'est que c'est allé un peu vite et qu'on m'a très vite catégorisé influenceuse, instagrammeuse, alors que moi, je me suis toujours dit, bon bah si ce Instagram marche, tant mieux, ce sera un pied à l'étrier pour ma carrière de comédienne. Mais en fait, moi, c'est tellement fort cette envie de jouer au cinéma, de jouer à l'écran, que là, je suis en plein contrôle de ce que je fais, de mes moindres faits et gestes. Parce que même si je suis très friande et très spectatrice de tout ce qui se passe sur YouTube, j'ai pas envie d'aller vers là. Peut-être que ça changera plus tard, mais là, mon objectif, c'est cinéma, tu vois. Mm. Et malheureusement, il y a encore un fossé entre le cinéma et Internet, qui est en train d'être de moins en moins grand, mais qui est toujours là. Et donc, voilà, je fais attention à refuser de plus en plus des projets qui, je pense, seront bien dans l'immédiateté, mais qui m'éloigne de plus en plus de mes objectifs. Là, je suis allée en agence. Je m'appelle Anaïde Rosam.
Salut tout le monde.
Salut à tous.
Ça sent que je le noterai dans le titre.
Passez une bonne journée. Là, je viens d'être prise en agence de cinéma, donc je suis très contente. Et mon agent m'a dit de me concentrer sur les projets, de pas m'éparpiller, en fait.
Ouais.
Parce que je pense que quand tu veux être comédienne, c'est très bien. C'est génial, Instagram, parce que tu vois, moi, ça me permet d'avoir une visibilité de ouf. Je suis suivie par des gens dont j'adore le travail, donc c'est génial. Mais voilà, il faut que je reste à la visibilité et à ne pas m'éparpiller. Tu vois, mon agent m'a dit, si tu veux être actrice, si tu veux aller vers le cinéma, il faut absolument que tu... que tu sois de plus en plus discrète, entre guillemets, parce que bah, le propre d'un comédien, c'est d'incarner des personnages, et il y a aussi tout le côté mystérieux du comédien, tu vois, on n'a pas envie de forcément de savoir sa vie privée, ce qu'il fait tous les jours, donc je suis en train de réduire de plus en plus les stories, parce que moi, j'aime beaucoup me filmer chez moi, raconter un peu n'importe quoi, des trucs un peu légers. Mais j'essaye de me projeter et de penser un peu comme une future comédienne et de pas penser à l'immédiateté parce que on en revient au même truc, c'est que on est dans la culture du rapide, du zapping, on a envie de... Tu vois, moi, par exemple, si je poste pas une vidéo pendant 4 jours, je stresse un peu. Parce que je me dis, oh là là, on va m'oublier, on va me zapper. Et en fait, là, je suis en train de me dire de plus en plus qu'il faut aussi penser au long terme et que... Que voilà, j'ai fait mes preuves, j'ai posté pas mal de vidéos, j'ai beaucoup d'abonnés, les gens connaissent mon humour. Je peux aussi déstresser et penser à des projets plus longs, tu vois. Là, je commence à déstresser un peu, à commencer à écrire, à penser plus loin et à ne pas penser dans l'immédiat parce que moi, j'ai toujours voulu être comédienne, mais j'ai toujours été aussi dans ce truc de « il faut poster maintenant, sinon ça va partir, je vais m'évaporer ». Et en fait, non, il faut aussi... C'est une forme de confiance en soi, tu vois. De se dire, je sais ce que je vaux. Bon, je dépends beaucoup du regard des autres, hein, parce que je sais ce que je vaux, parce que les gens me rappellent aussi que c'est bon, j'ai fait mes preuves. Mais voilà, je pense que je commence de plus en plus à avoir confiance et à me dire que voilà, les gens aussi seront patients et pourront aussi un peu attendre que mes projets soient de plus en plus sérieux et donc un peu plus longs.
Ouais, je vois ce que tu veux dire. Non, mais c'est hyper intéressant comme réflexion, et c'est vrai que. Je comprends la question que tu dois te poser. Après, ce que je pense aussi, c'est que il n'y a pas une définition de ce qu'est un acteur ou une actrice. Je crois beaucoup au fait de rester fidèle à soi-même et au fait qu'en fait, c'est ça qui paye à terme. Parce que bah, c'est génial d'être conseillé, tu vois. Mais souvent, les gens qui conseillent, bon, bah, peut-être qu'ils ont conseillé d'autres gens, mais ces gens, c'est pas toi. Et peut-être que même eux, enfin, moi, j'ai cette impression que. Surtout dans l'entrepreneuriat, où, bon, voilà, des métiers où il y a beaucoup de personnes qui se prétendent experts et aptes à donner des conseils, eux n'ont rien fait ou en tout cas pas fait ce que toi tu veux faire, tu vois. Donc, je sais pas, j'ai quand même l'impression qu'avec Instagram, au final, ce qui règne, c'est quand même ton influence. Et c'est une bonne chose comme une mauvaise chose. C'est une bonne chose dans le sens où il y a beaucoup de gens qui sont restés fidèles à eux-mêmes et qui, du coup, ont très bien marché et qu'en fait, leur communauté est tellement importante que les marques n'ont plus eu d'autre choix que de s'aligner, tu vois. Alors malheureusement, je cherche un exemple dans le bon sens, mais je sais même pas si j'en ai, en tout cas ça me reviendra. Dans le mauvais sens, j'en ai. Après, chacun pense ce qu'il veut, je suis pas du tout là pour juger. Mais tu vois, Nabila, je dirais, elle a quand même poignardé son mec. Elle représente des défilés aujourd'hui de grandes marques et elle est admirée et elle a pas de problème à avoir des partenariats qu'elle veut faire en fait juste parce qu'elle a 4 millions d'abonnés. Donc je pense qu'il y a aussi ce truc de j'en sais rien, mais moi je te conseille en tout cas de pas te brider si t'aimes être dans l'immédiateté et que ça te ressemble de faire des stories marrantes, parce que pour aussi moi être contacté par des gens, souvent en fait ils te contactent parce qu'ils ont vraiment, ils t'apprécient, ils ont un coup de cœur sur toi. Et en fait je pense que Instagram rebalance un peu le principe du chassage de tête, on va dire, où en fait ça va plus, même pour être, quand on est acteur, je pense qu'on va plus forcément avoir besoin de passer 10 000 castings. Quand on a une plateforme sur Instagram, en fait, on va sûrement se faire démarcher par des gens qui ont vu ce que tu fais, qui aiment qui tu es ou ton personnage, et qui, du coup, vont te proposer des projets. Mais je pense que, du coup, si t'es moins toi-même, ça se ressentira, et du coup, tu devras peut-être passer par la porte classique alors que t'avais une autre alternative,
ouais,
tu vois.
En fait, je me suis peut-être mal exprimée, mais tu vas voir ce que je veux dire dans le sens où je pense que quand tu veux être comédienne, le propre d'être comédien, c'est d'incarner des personnages. Et moi... Je te dis ça parce que c'est aussi moi de faire des stories, de raconter un peu ma vie, mais c'est aussi moi de penser que il y a certains comédiens et comédiennes que je suis beaucoup sur Instagram et que je me mets à plus suivre parce qu'en fait, j'ai plusieurs personnes en tête, mais je veux dire, il y a une comédienne que j'aimais beaucoup et en fait, sur Instagram, elle poste vraiment tous les moindres détails de sa vie. Et du coup, tu vois, quand je la vois dans un film maintenant, j'ai beaucoup de mal à la voir, en fait. J'ai en tête sa vie privée, ce qu'elle a posté la veille. Et donc, j'ai beaucoup de mal à croire au personnage qu'elle incarne, tu vois.
D'accord, je vois ce que je veux dire alors. Tu veux préserver un peu le côté caméléon de l'acteur où, en fait, tu sais plus qui vraiment...
Et tu vois, je pense que quand tu donnes un peu trop... je vois aussi certains youtubeurs, tu vois, qui sont à mourir de rire, mais qui ont vraiment leur personnage à eux. Ils incarnent vraiment un personnage. Et du coup, maintenant, quand tu les vois au cinéma, bah, pareil, je vois leur personnage. J'ai du mal à les voir dans un autre rôle. Et pour moi, ça, c'est très important, tu vois, le mystère de l'acteur, le voir plus comme un caméléon, comme tu dis, et se détacher de l'image qu'il représente. Même pour la vie privée, tu vois, je veux dire, un comédien, si tu vois trop qui il est, et ben du coup, t'as limite plus envie de savoir sa vie privée que le prochain film dans lequel il va jouer, tu vois.
C'est vrai.
Pour moi, c'est super important, mais c'est aussi, bien sûr, en paradoxe avec tout ce qui se passe aujourd'hui, avec... Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer, en bien comme en mal, par rapport au lien cinéma et influence et réseau, tu vois. Parce que maintenant, on peut pas négliger le fait que bah il y a beaucoup de talents sur les réseaux. Et aussi, je pense que les directeurs de casting, enfin moi, je vois plein de directeurs de casting, d'agents qui sont sur les réseaux. Et ça fait aussi des gens qui sont fâchés, parce que moi, je vois des comédiens qui sont pas forcément sur les réseaux, qui passent leur vie à toquer aux portes des castings, et ça fout la haine quand tu vois quelqu'un sur les réseaux qui poste depuis sa chance et qui est pris dans depuis sa chambre et qui est pris dans un film, tu vois. Donc il y a plein de choses qui changent, c'est un peu brouillon, et en effet, t'as totalement raison quand tu dis que les conseils sont bons à prendre, mais ne sont pas non plus la vérité absolue, parce que moi, je reçois des conseils de personnes, par exemple, qui n'ont pas Instagram, qui ne sont pas au courant de tout ce qui se passe sur les réseaux. Donc, je suis en mode, merci de me conseiller, mais bon, tu sais pas ce que je fais. Enfin, je suis sur Instagram, je passe ma vie dessus. C'est un peu compliqué de recevoir un conseil de toi, vu qu'on n'a pas du tout, on n'est pas de la même génération, on n'a pas la même vie. Donc, en fait, moi, je suis dans un processus là où je prends un peu tout, mais je fais à ma sauce, parce que je pense que on est la nouvelle génération. Qui testent les nouvelles choses. Je veux dire, par exemple, toi, si tu reçois les conseils d'une femme de 50-60 ans, bah, c'est sympa, mais elle a pas du tout le même parcours que toi, elle a pas du tout les mêmes réseaux, le même conception des réseaux, donc... Donc faut prendre les choses mais avec de la distance, je pense.
Ouais, exactement. Et je pense que ouais, on peut aussi faire ce travail en gros de d'appliquer déjà si ça correspond à qui on est ou à ce qu'on veut faire. Et autant j'ai eu des super bons conseils de personnes âgées, mais c'est vrai que ça va être sur des sujets en particulier où ça va être une sagesse qui s'applique à certains thèmes et pas à d'autres quoi. Mais c'est vrai, je réfléchissais du coup à. Alors personnellement, je suis pas d'acteur et d'actrice. Je sais pas si c'est pour les raisons que t'as nommées. Je crois que c'est plus parce que leur contenu me parle pas trop. Enfin, par exemple, j'adore Emma Watson. C'est vraiment quelqu'un que j'admire beaucoup, surtout pour ses engagements. Et en plus, enfin, tu vois, c'est paradoxal parce que ses posts sont que par rapport à ses engagements et je trouve ça génial. Mais d'un autre côté, enfin, elle poste quasiment jamais. C'est des trucs très léchés. Et je sais pas, ça crée une distance où en fait, du coup, j'ai l'impression que j'ai pas besoin de la suivre. Mais je sais par exemple que ma sœur jumelle, justement, je crois qu'elle suit Millie Bobby Brown. Et qui, elle, en fait, j'ai l'impression que le fait qu'elle soit aussi présente sur Instagram, les gens adorent.
Ah ouais.
Alors après, moi, j'ai jamais regardé, c'est Stranger Things, je crois, qu'elle elle joue. Donc, j'arrive pas à dire est-ce que les gens. Enfin, tu vois, parce qu'en plus, je crois qu'elle joue quand même une nana, genre assez grave, tu vois. Tu vas me dire, alors.
C'est un très bon exemple. Par exemple, moi, ça m'a fait rire, il y a pas longtemps, parce que je parlais avec ma petite cousine de 10 ans, qui suit Millie Bobby Brown. Et ça m'étonnait parce qu'elle a peur des trucs d'horreur, parce que ça fait quand même un petit peu peur, Stranger Things, surtout à son âge. Elle me dit « Ah non, j'ai jamais regardé Stranger Things ». En fait, elle la suit en tant qu'influenceuse. Et moi, j'ai regardé Stranger Things, j'ai adoré, je trouve qu'elle joue très bien. Et puis, comme tu dis, elle a un rôle très noir, où elle parle à peine. Et alors, quand j'ai commencé à la suivre sur les réseaux, je l'ai unfollow un mois après, parce que je me suis dit « Oula, je peux plus me la voir, en fait. Je peux plus me la voir, j'arrive plus du tout à y croire. Elle est très... Après, elle a 14 ans, tu vois, cette actrice, et c'est totalement normal. C'est pour ça que je comprends totalement qu'elle a envie de poster, mais elle est très en demande d'attention et tout. Mais moi, ça me dérange. Alors, ça me dérange personnellement, je veux dire, ça me dérange après d'aller la voir au cinéma. Parce que je sais. Après, c'est aussi une preuve qu'elle joue bien. Tu vois, je suis pas non plus radicale sur ce point. C'est-à-dire que c'est une preuve qu'elle joue bien. Si elle fait un peu la petite fille qui poste beaucoup et que dans son rôle au cinéma, elle joue un rôle très noir, ça veut dire qu'elle joue bien. Mais j'ai trop d'images de son Instagram quand je la vois, tu vois. Et du coup, je sais pas, j'ai besoin, moi, de... Je trouve que l'acteur, il doit cultiver son côté mystérieux et que c'est important. Après, je suis peut-être un peu trop classique... C'est peut-être un peu trop classique, mais je sais pas, moi, c'est l'image que j'ai de l'acteur pour l'instant, mais après, je vais peut-être aussi changer mes idées, parce que je suis aussi très sur les réseaux, et je suis aussi beaucoup d'acteurs sur les réseaux, mais pour l'instant, ouais, ça me... Je sais pas.
Ouais, ouais, je comprends ça.
Par exemple, quand je vois Eleven, le personnage qu'elle incarne, je sais pas, j'ai l'impression de trop connaître la vie privée de l'actrice et j'y
ouais,
crois moins.
Ouais, non, mais
quoi.
Je comprends, on enlève le côté fiction, quoi.
Ouais.
De toute façon, ça, c'est aussi un problème qu'on peut avoir, même quand on n'est pas sur les réseaux. Enfin, tu vois, les acteurs d'Harry Potter, beaucoup de gens ont décrété, ben, en fait, Daniel Radcliffe, on peut plus le voir autrement que par Harry, quoi. Et ça, c'est vrai que j'ai l'impression que c'est...
totalement.
Ouais. Et surtout, j'ai l'impression que c'est vrai que c'est une vraie problématique pour les acteurs. J'avais entendu une interview de Nina Dobrev qui joue dans Vampire Diaries, que je regardais à l'ancienne, hein, quand j'avais le temps de regarder des séries au lycée, tu vois. Et bon, elle a quand même signé, je crois, pour 4 ou 5 saisons. Et en fait, elle n'a pas reconduit la suite aux grandes dames des réalisateurs qui, du coup, je crois, ont arrêté la série parce que c'était vraiment le personnage principal. Parce qu'en fait, elle se disait, mais en fait, après, j'avais plus envie que les gens me voient comme... Bah, d'ailleurs, je me demande si elle ne s'appelle pas aussi Nina dans la série, je ne sais plus. Mais du coup, voilà, en plus, catégorisée vampire, donc ce n'est pas un truc facile de se détacher. Alors, depuis, je ne l'ai pas vu dans d'autres films, donc je ne sais pas si c'est en cours. Mais c'est vrai que je pense que c'est difficile. Mais tu vois, par exemple, Emma Watson a super bien réussi. Donc, je pense qu'il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle.
Ouais,
mais c'est vrai qu'il y a, il y a des questions à se poser. Et c'est là où, au final, je me rends compte que c'est vraiment compliqué aussi de réfléchir à son image quand on est acteur.
Ouais.
Parce que là où j'ai aussi, personnellement, plusieurs casquettes, ben, je me pose moins la question, vu que je peux me permettre, je pense, d'être moi-même à tout niveau et pas trop réfléchir ou intellectualiser. Parce que j'imagine qu'il n'y a pas trop de conséquences, tu vois. Alors que c'est vrai que dans ce que vous faites, il y en a plus.
Bah moi, c'est vrai que quand j'étais petite, mon rêve, c'était même pas d'être... Enfin, je voulais être actrice, mais alors quand j'avais, je sais pas, 6-7 ans, je voulais être actrice pour être connue, en fait. Tu vois, je voulais qu'on me prenne... je voulais apparaître à l'affiche de... sur la couverture de Grazia, en paparazzi. Enfin, j'avais vraiment cette idée en tête. Après, j'ai grandi, heureusement, et j'ai commencé à faire du théâtre, donc à aimer le métier pour ce qu'il est, vraiment. Mais tu vois, cette idée de reconnaissance, de notoriété, elle a toujours été un peu présente, parce que... Et en fait, je me rends de plus en plus compte que ça me fait vraiment peur, parce que la question de l'image, elle est centrale. Et comme tu viens d'en parler, tu peux être vite aussi enfermé dans quelque chose que tu incarnes, parce que le problème, c'est que le public, la seule image qu'il a de toi, c'est bah, en fait, comment dire... Quand tu es acteur, tu donnes ton corps et ton visage à un personnage, mais c'est quand même toi, donc on te définit par ça. Et moi, à plus petite échelle, vraiment, parce que je suis pas encore actrice, j'ai pas encore joué à l'image, mais je m'en rends compte que même avec Instagram, ça me joue des tours. Par exemple, je fais des vidéos humoristiques qui font rire, mais par exemple, je sais pas, je vais prendre un verre avec une copine ou je vais aller à une soirée et les gens vont attendre la blague. Tu vois, des gens, par exemple, des connaissances qui m'ont jamais parlé et qui, là, par contre, je suis au centre de l'attention et je vais dire bonjour et ils vont se taper un énorme fou rire, tu vois. Parce qu'ils attendent la blague, parce que je fais des vidéos drôles. Et je suis en mode, bah non, les gars, j'ai pas envie de rire, je suis pas drôle.
Ouais.
Tu vois,
c'est pas sur demande.
Ouais, c'est pas sur
machine,
demande
quoi.
Et surtout, ça me représente pas. Enfin, quand je poste une vidéo, je donne le meilleur de moi-même, je la refais pendant une heure et je gère le résultat. Mais je me tape pas des barres en dormant ou en vivant. Enfin, tu vois, c'est.
Ouais, c'est
ça, c'est
on se fait une idée des personnes en fait, qu'on ne connaît pas, mais
en fait,
on
ils prennent
fait
une
acteurs,
photo, et ça va aussi dans le côté inverse. Je me souviens un jour, quand je devais avoir 12 ans, j'avais vu Gad Elmaleh à une soirée. Et en fait, pour moi, Gad Elmaleh, c'était mon dieu de l'humour. Pour moi, il était drôle H24. Et en fait, à cette soirée, il parlait avec un homme, et je le trouvais très noir, tu vois. Il devait parler quelque chose de sérieux, comme tout le monde peut le faire. Il n'était pas drôle, du coup. Et ben, je me suis dit, oh là là, mais en fait, c'est pas quelqu'un de bien, il doit être hypocrite et tout. Et en fait, j'ai analysé le truc un peu plus tard et je me suis dit, putain, mais c'est horrible de penser comme ça, parce que quand t'es acteur, on prend une photo. Si tu déçois, tu déçois fois mille et du coup, on te voit comme quelqu'un de faux. Alors que c'est le propre de l'acteur, c'est de mentir, en gros. Quand tu joues un personnage, tu mens. C'est mentir, mais de façon magnifique, tu vois. Tu rentres dans la peau de quelqu'un d'autre. Et donc, malheureusement... Ça, c'est toutes les histoires des paparazzi aussi. Je sais pas, quand Britney Spears est prise en train de boire de l'alcool, ah bah du coup, c'est une alcoolique. Et on retient que ça, mais c'est ça me fait de plus en plus peur, tu vois.
Non, mais c'est le problème des personnalités connues de manière
générale.
Et
donc,
je pense
aussi que ça rejoint aussi le fait de rester un peu discret, en fait.
Ouais.
Tu vois ce que je veux dire ?
Mais ça, j'avais pensé à deux trucs par rapport à ce que t'as dit. La première, c'est qu'en fait, ça, c'est vrai que c'est malheureusement le propre des personnes qui ont une certaine notoriété. J'en parlais encore, je crois, il y a une ou deux semaines avec quelqu'un qui me disait... je crois qu'elle avait croisé Patrick Bruel à un café je sais plus où c'était, et qu'en fait le mec était en mode non, genre pas aujourd'hui, enfin tu vois, des... Alors apparemment, c'est normal, mais alors apparemment il avait été particulièrement désagréable dans le sens où peut-être les gens lui avaient juste dit ah bonjour et tout, et que lui il avait pas répondu, il t'a laissé moi tranquille et tout. Mais voilà, si jamais il avait juste refusé des photos, en fait, tu peux décréter que c'est un connard.
Ouais.
Alors qu'en fait, c'est juste une personne normale.
Mais je trouve
et
ça,
c'est super bien de se mettre à la place des autres. Et moi, parfois, ça me fait vraiment de la peine quand je réponds pas à un message sur Insta parce que j'ai vraiment du mal à répondre à tout.
Du coup,
et où je me prends des « ouais, pas de réponse, je suis très déçue » et tout. Et je suis là genre « non, j'ai pas envie de te décevoir, mais en fait, sinon, je n'ai plus de vie. Sinon,
ouais,
je passe 24 heures de mes journées à répondre à chaque message individuel,
exactement,
tu vois. »
Et en fait, c'est ça le problème, c'est que Patrick Boel, ça se trouve qu'il avait perdu quelqu'un deux
mais
heures
ouais,
avant. Et que...
ouais.
Mais du coup, tu retiens que cette image... Et ouais, non, bah c'est un peu l'envers du décor qui est un peu
ouais,
flippant.
Ouais, et j'avais moi, entendu pour le coup Emma Maquet de Sex Education,
ouais,
qui elle avait dit, et c'est vrai que je l'avais, que j'ai commencé à la suivre sur Instagram aussi parce que bah, j'adorais son personnage et qu'en plus elle est française, donc j'étais là genre.
Ouais.
A Frenchie in America.
Parce qu'elle s'est abonnée à moi, je me suis dit, mais pourquoi elle s'abonne à moi? Elle parle pas français. Et après, je me suis rendu compte.
Ouais, ouais, si, elle vient d'un village en France et tout. Bon, après, elle a étudié en Angleterre.
Donc,
ouais, elle est totalement bilingue. Et même, je l'avais entendue sur un podcast. Je trouve qu'elle a même l'accent british maintenant, même quand
ah ouais
elle parle français. Bah, tu sais, je pense, elle est peut-être partie à 18 ans et genre, ça fait 5 ans qu'elle est pas revenue en France, tu vois. Et mine de rien, peut-être que tu prends un peu l'accent. Et elle a dit que, voilà, les réseaux sur Instagram, enfin, elle a enlevé toute notification. Elle se connecte une fois par semaine, elle poste, mais une fois par mois. Enfin, parce qu'en fait, elle a dit, c'est pas mon métier.
Ouais.
Voilà, elle, je pense, c'est là où, de toute façon, c'est différent que ton cas et que d'autres, mais elle a commencé en faisant de l'image sur enfin, la télé et sur les séries. Donc, du coup, elle s'est créé un compte Instagram bah, parce que juste, il y avait une demande. Mais elle a vraiment dit, bah, en fait, les gens attendent maintenant de la part des acteurs d'être influenceurs.
Exactement.
Et elle dit, c'est deux métiers différents. Et c'est vrai, enfin, certains le voient comme non, comme une continuité de ce qu'ils font. Mais d'autres le voient comme autre chose. Et je trouve qu'on devrait respecter ça aussi parce que c'est vrai que c'est pas pour tout le monde, quoi.
Et je pense aussi que... Ça, c'est, il faut être courageux sur ce point-là. Mais je pense aussi que plus tu donnes d'éléments de ta vie, plus les gens se permettent, en fait, de la critiquer, tu vois.
Ouais.
Et donc, c'est pour ça que je te dis que... C'est pas moi non plus, parce que je me dis que si je commence à raconter ma vie en story, les gens vont se permettre voilà, de dire certaines choses, et je suis pas prête à ça, donc c'est pas moi non plus, tu vois, de raconter ma vie sur les réseaux sociaux, parce que j'ai peur du retour, et voilà, quoi, je pense que...
Et du coup, je me demande, pour l'instant, c'est quoi les messages un peu que les gens t'écrivent? Parce que comme on a des comptes très différents, j'imagine que c'est pas du tout les mêmes messages que je peux recevoir, et du coup, ça m'intrigue, parce que c'est des vidéos humour, donc est-ce que c'est juste des tear-up, genre, j'adore, tu me fais trop rire, ou...
Bah, c'est beaucoup de ça, ouais, c'est beaucoup de ça, après... oui, c'est beaucoup de bravo, j'espère que tu vas aller. J'ai beaucoup de... Au-delà du fait qu'on me dise tes vidéos sont drôles, il y a vraiment des gens bienveillants qui me disent des choses vraiment gentilles, très encourageantes, en me disant j'espère que tu vas aller loin, tu mérites de jouer, tu mérites d'être connu par des professionnels. Enfin, et des messages, tu vois, constructifs. Et puis même, s'il y a des messages pas vraiment... un peu critique, s'il y a des messages critiques, c'est en général, c'est des messages plutôt cool. Par exemple, j'ai trouvé que cette vidéo était pas drôle, mais qu'elle était vraie. Oh, j'ai trouvé qu'elle était pas drôle, mais qu'elle voulait faire passer un message. Tu vois, des trucs comme ça. Donc, c'est pas... ouais, c'est pas... J'ai pas beaucoup de messages très méchants. J'en ai eu, hein, mais qui m'ont pas non plus... j'ai pas eu de trucs
harcèlement.
Ouais. Parce qu'en même temps, voilà, je pense que le fait de faire plusieurs personnages très différents... tu vois, je fais des personnages de mecs un peu de Tess, des personnages de maman un peu bourgeoise, de parisienne, de beauf. Et du coup, je pense que... Je dis ça, j'en sais rien, mais je pense que tout le monde y trouve un peu son compte. Et il y en a plein qui me disent « Ah bah moi, ce personnage, il me fait pas rire. Par contre, l'autre, il me fait mourir de rire.
»
Et moi, ça m'arrange. Ça m'arrange parce que c'est... Puis en plus, c'est très... Moi, tous ces personnages, ils sont dans ma tête depuis très longtemps. C'est, tu vois, par exemple, la mère un peu bourgeoise, elle me fait beaucoup penser à ma mère sur certains points, pas en totalité, mais et du coup, de les montrer à autant de personnes et que ça plaise à autant de personnes, c'est très bizarre, parce que j'ai l'impression... Pour moi, j'ai l'impression de donner quelque chose de très intime, de très personnel, et que ça plaise, c'est génial.
J'imagine, c'est marrant. Alors, le parallèle qui m'est venu en tête, je pense que c'est parce que, personnellement, j'aime beaucoup écrire, et c'est plus des romans ou des personnages de romans que j'ai eu dans ma tête. J'imagine si j'écrivais un livre où il y avait un personnage fictif et que les gens me disaient « Oh mais je l'adore, j'adore qu'elle fasse ça, ça et ça, ça me fait penser à ça. » En fait, t'es trop contente que le petit personnage que t'as créé soit validé et soit apprécié parce que, ouais, c'est une partie de toi, donc c'est vrai que c'est une validation. Et limite, j'ai l'impression qu'il est encore supérieur au fait qu'on te valide toi-même parce que je pense qu'on est encore plus fier de ce qu'on a créé, tu vois, parce qu'on ne choisit pas trop qui on est, alors que ce qu'on a créé, c'est une gratification du travail, quoi.
Totalement, totalement.
Et je me demande du coup, est-ce que tu parlais tout à l'heure que ouais, tu travailles beaucoup tes vidéos. Est-ce que, je sais pas, tu te fais des brainstorms? Est-ce que tu as un emploi du temps?
Je sais même pas ce que c'est un brainstorm.
C'est vrai? Ah, j'adore. Alors, on en prend ensemble une fois si tu veux. Un brainstorm, c'est, personnellement, je suis très feuille et écrire. Je prends une feuille, je prends un stylo et tu vois, je brainstormais des idées de vidéos.
C'est organiser un peu?
Alors,
prévoir?
Prévoir. En fait, moi, c'est plus que, pour tout faire. Je préfère m'organiser, donc souvent je me fais des week plans où tu vois j'ai noté tout ce que j'ai à faire dans la semaine et tout chaque jour. Et donc par exemple je vais me dire là j'aimerais bien avoir des nouvelles idées de vidéos. Et donc je vais bloquer le créneau, on va dire genre allez jeudi de 10h à 11h brainstorm. Mais là si tu veux au contraire le brainstorm c'est un truc très créatif, hein, libéré dans le sens où tu peux faire comme tu veux, moi je mets pas de contraintes et je me dis juste de quoi j'aimerais parler et là je brainstorm et en fait c'est juste on va dire te réserver du temps, te réserver du temps pour exprimer ta créativité parce que personnellement j'ai l'impression que c'est difficile d'exprimer ma créativité si je fais trop d'opérationnel. Enfin tu vois si je suis toujours dans juste filmer, faire des photos, répondre aux mails, gérer maintenant aussi Girls in Biz et ma marque de lingerie, en fait je suis pas trop sûre de personne où les idées vont venir un peu en se baladant ou au petit bonheur la chance, j'ai besoin de me poser, de me concentrer, justement pour que les idées viennent. Donc après, je pense que c'est des types de personnalités différentes, mais moi j'aime bien brainstormer pour créer mon contenu. Et du coup, je me demandais si toi, quand tu crées des vidéos, est-ce que c'est juste l'idée de la maman t'est venue dans le bain et tout d'un coup t'as commencé à écrire et après t'as tourné la vidéo, ou est-ce que t'essayes d'organiser un minimum la réalisation des vidéos?
Alors déjà, pour te dire très honnêtement, je n'écris rien.
Ouais.
J'écris rien du tout. Et alors moi, au contraire, contrairement à toi, moi c'est très et c'est ça qui me fait peur d'ailleurs, c'est que les idées viennent un peu comme ça.
Ouais.
Je pense que c'est des idées qui sont là depuis longtemps. Par exemple, tu vois, si je fais, par exemple, là la dernière vidéo que j'ai faite, c'était sur le fait que tu te sens mal quand quelqu'un a une référence que tout le monde a quand on te dit mais attends mais tu connais pas un tel et que du coup tu te sens mal. Moi c'est un truc que j'observe depuis très longtemps, mais j'ai eu d'un coup la chute, les personnages à mettre dans la vidéo et la situation. Mais c'est toujours des choses qui sont là depuis très longtemps. C'est comme la mère bourgeoise, elle est dans mon cœur depuis très longtemps, j'ai envie de la faire depuis très longtemps, mais de la faire vivre, entre guillemets, de faire vivre le personnage, ça arrivait un peu d'un coup. Donc moi, je pense que je suis très... j'ai l'impression que j'ai un processus un peu chelou où les choses se conscientisent d'un coup, mais qu'elles sont déjà là de base, tu vois, elles sont déjà là à l'origine. Ouais, elles sont inconscientes, elles arrivent jusqu'au conscient. Du coup, je suis un peu instinctuelle, j'ai l'impression, et ça me fait un peu peur, parce que du coup, tu vois, il y a des fois où j'ai pas d'inspiration, donc je vais être un peu dans la fuite, je vais me dire « Oh là là, c'est la merde, j'ai pas posté depuis longtemps », et d'un coup, je vais avoir une vidéo, donc c'est un peu... j'ai l'impression un peu d'être sur le qui-vivre, je sais pas si ça se dit.
Non, mais je vois ce que tu veux dire, qu'en fait, ouais, tu, ça se dit, ouais, et tu dépends pas de toi d'une certaine manière, quoi. Tu dépends de ton puits d'idées, quoi.
Mais tu vois, là, les choses commencent, je commence aussi à aller vers autre chose par rapport à. Enfin, pas de fuir Instagram, mais d'aller vers d'autres formats. J'aimerais bien commencer à écrire pour des plus gros projets, pour des plus gros trucs. Et donc là, forcément, je dois travailler en amont, sinon je vais pas m'en sortir. Enfin, je peux pas faire le savant fou qui écrit toute la nuit d'un jet et donner ça à une production le lendemain. Non, c'est impossible. Mais du coup, là, je commence de plus en plus à me prendre un coup de maturité dans la gueule et à commencer à écrire en profondeur, à réfléchir. Mais tu vois, là, c'est très récent que je commence à écrire parce que j'ai eu l'impression ces derniers mois que comme j'étais très sur l'instinctif, j'ai dit instinctuel tout à l'heure.
Je me demandais si ça se disait.
Non, ça se dit pas du tout.
C'est instinctif,
Instinctif. Et j'arrive pas à m'enlever ce mot de la bouche qui est totalement...
Moi, je suis aussi pour qu'on en invente. Il n'y a pas de règle.
Instinctif. On va inventer de nouveaux mots. Je suis très instinctive. Et, Et du coup, tu vois, ça me faisait un peu peur. Je me disais, putain, mais je vais pas réussir dans la vie si je suis instinctive. Ça veut dire que je vais être un peu, voilà, sur...
Imprévisible.
Ouais, quoi. Imprévisible. Et ne pas pouvoir créer de choses sur le long terme, ça fait un peu peur. Et du coup, tu sais, par exemple, j'étais un peu dans le déni, donc je me couchais tard, j'étais longtemps sur mon portable, je me levais tard. J'étais un peu dans un truc de je vais pas réussir, ça va pas être possible et tout. Et en fait, là, depuis quelques jours, je commence à écrire, à me poser à une table et à me dire, non, Anaïs, t'es capable. Tu as plusieurs manières de travailler, ça peut être instinctif, ça peut être aussi en profondeur et au moins essayer quoi.
Non, t'as raison. Parce je pense que de toute façon, notre plus grand ennemi, c'est nous-mêmes. Hein.
Ouais, parce que
c'est tellement plus facile de rien faire. Là, c'est la facilité.
Procrastiner.
Alors que croire en soi et se donner les moyens, c'est difficile. Mmh. Mais je pense qu'on a le choix.
Totalement, totalement. Et puis tu sais aussi, le fait de rien faire, t'as l'impression que quand tu fais rien, le temps il s'arrête. Parce que tu fais rien. Alors qu'en fait, le temps il passe et il faut aussi se dire qu'il faut y aller, quoi. Enfin, c'est important aussi de... Et puis, il y a tellement un revers positif, c'est-à-dire que mes vidéos, elles sont cool, mais j'aimerais bien aussi voilà, faire des choses plus grosses, avec des projets plus longs, et être encore plus fière, tu vois. Bon, après, le truc que je te dis, c'est que c'est instinctif, mais quand même, quand je fais une vidéo, une fois que j'ai l'idée, je la réfléchis, hein. Je la réfléchis, je la travaille pendant une journée, et après je la fais, et je poste pas comme ça, de manière instinctive, encore une fois. Par contre, je peux passer 1 heure, 2 heures sur une vidéo, parce que je suis assez perfectionniste, et très en contrôle, donc...
C'est intéressant. Bah, de toute façon, je pense qu'il y a toujours du travail, même dans la vidéo qui paraît la plus spontanée du monde, et ça le confirme. Et du coup, on se le disait juste quand t'es arrivée, du coup, t'as arrêté la fac de psycho. Qu'est-ce qui a été... On va dire l'élément déclencheur, s'il y en a eu un. Est-ce que ça t'a fait peur et qu'est-ce que tu prévois pour cette année?
Alors, moi, j'ai eu des parents qui m'ont toujours prévenu des risques. Ce qui est bien, mais ce qui est aussi un peu mauvais. Mmh. Dans le sens où tu prends pas de risques, justement, quand on te prévient trop. Donc, moi, à la sortie du lycée, j'étais une adolescente un peu rebelle, un peu, comment dire, je vivais un peu... Au jour même.
Au jour le même.
J'ai un problème. En fait, j'ai pas mangé, donc je suis un peu...
Tu vas manger?
Attends.
Ah non, mais parce que pour moi, c'est la pire chose au monde de ne pas manger.
En fait, j'ai pas faim, c'est bizarre, mais du coup, je pense
mais il faut quand même manger. Attends, moi, quand je n'ai pas mangé depuis 3 heures, mon cerveau s'arrête.
Ah, mais là, il est vraiment
Mais je suis comme toi, j'arrive pas à trouver mes mots. Et attends, je suis admirative. Attends, regarde, il y a des céréales à côté de toi, il y a toujours des céréales sur la table de Louise.
N'hésite pas. Merci beaucoup. On va partir sur un truc ASMR.
Ah, c'est mon cauchemar en plus, ce genre de
truc. Je dis n'importe quoi, j'oublie toutes les expressions. Donc, je vivais un peu au jour le jour, au jour le même.
le titre de l'épisode.
Au jour le
Anaïde même. Anaïde Rosam, au jour le même. Au moins, ça intrigue.
Ouais, grave. Au jour le même instinctuel, c'est super. Alors, au jour le jour, je vivais un peu au jour le jour. Et alors, à la sortie du lycée, je voulais absolument faire des cours de théâtre et voilà, et mes parents m'ont dit non, tu vas faire des études, il faut aussi prévoir les risques, parce que c'est vrai que le métier de comédienne, il est, y a 2% en fait qui réussissent, hein, la moitié galère, donc tu peux aussi crever la dalle, même si l'argent c'est pas le plus important, mais quand même. Et du coup, voilà, j'ai fait ces 3 ans de psycho. Au début, j'étais en grosse dépression scolaire, vraiment, c'est pour ça que j'ai redoublé, j'allais pas en cours, j'avais aussi un copain avec qui on se monte, enfin, on n'était pas vraiment dans le... On se tirait pas du tout vers le haut, et du coup j'étais un peu une larve pendant un an. Après j'ai redoublé, et au fur et à mesure j'ai commencé à kiffer mes études. Mais alors, bizarrement, c'est pas quand je me faisais chier en cours que j'ai voulu me dire ok, j'arrête. C'est en aimant mes études que je me suis dit oh là là, même si j'aime mes études, j'ai pas envie d'y être. Tu vois?
Ouais, ça t'a fait réaliser que ça pouvait devenir ta carrière, et t'as eu un peu de stress de oh là, c'est pas la carrière que j'ai envie.
En troisième année, j'ai beaucoup aimé la psycho, je me suis de plus en plus intéressée, mais je me suis dit putain, même en m'y intéressant, c'est pas là où j'ai envie d'être. Et en fait, à la fin de ma troisième année, j'ai eu ma licence avec mention, donc j'étais très contente, mais je me suis dit non, je peux pas continuer 2 ans parce que j'ai beaucoup de mal à être assise et à écouter un prof, j'ai besoin de créer, ça commençait à bouillir en moi. Alors qu'avant, tu vois, à la sortie du lycée, c'était un petit caprice, je pense. J'avais pas encore commencé à faire de théâtre. C'était plus un truc de j'ai envie de faire ça depuis toujours, donc je le ferai. Mais en fait, je pense que c'est très bien que j'ai fait ces 4 ans de fac, parce que ça m'a permis d'être d'en avoir encore plus envie, tu vois.
Ouais.
Et je pense que, tu vois, il y a des gens qui disent quand t'as envie d'un truc, il faut le faire tout de suite. C'est vrai aussi, mais c'est pas mal aussi d'avoir testé autre chose pour avoir encore plus l'envie de faire cette chose.
Je suis vraiment d'accord.
Et, ouais. Et moi, ça a été complètement le cas. Et du coup, là, cette année, j'ai redoublé d'envie, tu vois, de par mes quatre ans de psycho. Et du coup, là, je suis arrivée aussi avec une angoisse pas possible parce que, je suis à l'école depuis que je suis en maternelle. Donc, t'as un cadre depuis que t'es en maternelle. Et là, d'un coup, on te dit, bon, bah, tu veux être actrice, bah, vas-y. Et donc, t'attends. Et tu commences à faire des démarches un peu dans le flou. Et donc, parallèlement, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il y avait ce compte Instagram. Et donc, c'est vrai que j'ai eu des propositions qui sont venues un peu comme ça d'un coup. Et donc, j'ai vraiment de la chance d'avoir cette visibilité. Mais là, je suis dans une phase... Donc, tu vas dire, la meuf, elle est jamais contente. Mais je suis dans une phase où j'ai un petit manque de légitimité. Dans le sens où, tu vois, je suis chez Adéquate, qui est une très, très bonne agence. Je suis trop, trop contente. Mais je me dis, oh là là, comparé à mes potes du théâtre, voilà, qui galèrent un peu, moi, j'ai ça un peu sous la main. Et du coup, j'ai un peu de mal à me sentir un peu légitime. Et tu vois, aussi, il y a des trucs un peu bizarres. C'est-à-dire que, parfois, je vais rencontrer quelqu'un qui connaît mes vidéos, qui va me dire, oh là, t'es fantastique, c'est génial. Et à d'autres moments, je vais rencontrer quelqu'un qui ne connaît pas mes vidéos. Il va me dire, tu fais quoi dans la vie? Je vais dire, des vidéos sur Instagram. Il va me faire, ah, ok, d'accord. Et du coup, là, t'es en mode, putain, est-ce que c'est bien ce que je fais? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que c'est profond? Est-ce que c'est superficiel? Il y a plein de trucs qui t'animent forcément quand t'es dans la création et un peu dans le hors du système scolaire, t'as plein de... Il faut être fort, il faut être un peu stock niveau mental.
Il faut être sûr de ce que tu veux faire, il faut être sûr de soi. Et c'est vrai qu'il y a un manque de considération pour notre métier qui est assez...
Totalement. Ça va changer,
terrible. Ouais, je pense. Mais moi, je pense que c'est le terme qui va pas. Enfin, tu vois, c'est vrai, si jamais tu disais je suis instagrammeuse, t'as vraiment cette déconsidération totale qui est due malheureusement à notamment des personnes de télé-réalité ou autres qui prennent pas mon message. Et c'est pour ça que j'essaye de faire passer le message inspirateur et inspiratrice.
Ouais, c'est très bien, j'adore.
Mais il faut absolument que tu viennes au deuxième événement de Girls in Biz qui sera sur le sujet de comment faire sauter ces verrous mentaux parce que le syndrome de l'imposteur, c'est un vrai sujet. Et en fait, je pense qu'aussi, ce qui est terrible en France, c'est qu'on nous a pas appris à être fiers de qui on est ou de ce qu'on fait. Et franchement, moi, la première, j'ai eu toujours énormément de mal à dire que j'étais belle. J'ai encore vachement de mal aujourd'hui et je suis pas à l'aise rien que d'en parler, alors que pourtant c'est un combat que je mène sur les réseaux sociaux et que j'aimerais que toutes les femmes et hommes qui nous écoutent se trouvent beaux. Mais quand ça vient à toi, t'as ce truc où en France, la personne qui dit qu'elle est belle, elle est égocentrique. Et pareil si elle dit qu'elle est douée. Et donc en fait, c'est tellement intériorisé que quand voilà, on se dit je suis dans cette agence-là, mais en fait, est-ce que je le mérite? Enfin,
complètement.
Et donc j'essaie vraiment moi d'adopter cette attitude de ben alors je vais prouver que j'en suis à la hauteur. Comme ça, t'as pas non plus... Je pense que c'est dangereux de trop se reposer sur ses acquis et au contraire d'être là en mode, bah, bien sûr, je le mérite, tu vois. Faut toujours avoir un peu la dalle.
Et donc, avoir des doutes, c'est important,
mais se dire, j'ai envie d'y croire et j'ai envie de prouver que je vais être à la hauteur. Mmh. Je pense que c'est la seule manière saine, en fait, de ni d'être dans le syndrome imposteur et du coup de s'auto-censurer et pas d'être dans l'excès où on a trop confiance en soi et je pense que c'est pas positif non plus, quoi.
Je vais rebondir sur le « en France ». Parce que t'as totalement raison, en France c'est dur d'être soi-même, même si c'est une phrase un peu bateau, c'est vraiment le cas. Et alors moi je parle de ça, mais notamment au niveau des études, dans le sens où j'ai, je sais pas si tu connais Les Vertus de l'échec, c'est un livre qu'il faut lire, que j'ai pas fini.
C'est un livre de Charles Pépin ou un truc comme ça ?
Exactement.
Ouais, j'ai entendu sur un podcast il y a pas longtemps et je me suis dit il faut que je l'achète, attends, je me le note,
ouais.
Parce que je vais oublier.
Il est totalement génial et en fait il t'explique qu'en France, contrairement aux États-Unis, et ben en fait, l'échec, c'est pas une expérience, c'est un échec et ça s'arrête là, tu vois.
Ouais.
Et en fait, surtout, par exemple, il prend l'exemple des discours des hommes politiques qui ont fait l'ENA, Mathsup et tout. En fait, parfois, tu te décris par ton nombre d'années d'études.
En France,
ou les études que tu as fait,
ou
l'école que tu as fait. Et contrairement aux États-Unis. Et ça, par exemple, je trouve que c'est un gros frein aux gens qui veulent être comédiens. Parce que, par exemple, aux États-Unis, il explique que quand tu veux être comédien, il y a un truc très gay, dans le sens où un jeune qui veut être comédien aux États-Unis, il va être serveur à côté, et c'est pas une honte de galérer avant d'être comédien. C'est justement un acte de courage, tu vois. Alors que c'est vrai qu'en France, si tu galères, que t'es serveur à côté, bah, c'est un truc un peu d'échec, t'as un taf de merde alors que tu veux jouer. Et en fait... Ça se traduit aussi dans la différence des films français et américains. Par exemple, tu vois, en Amérique, le corps joue beaucoup. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de films d'action. Je sais pas, je vois même Jim Carrey, il est beaucoup dans le corps, il est surexcité, tu vois. Alors, Alors qu'en France, on est beaucoup sur des plans très serrés, avec une clope à la bouche, les expressions du visage comptent beaucoup. Parce qu'aux États-Unis, il y a un truc beaucoup plus dynamique, tu vois. Pareil, il expliquait qu'en France, quand t'as eu un échec dans l'entreprise que t'as voulu créer, et ben t'as comme une sorte de casier judiciaire. C'est-à-dire que la prochaine fois que tu vas vouloir recréer quelque chose, et ben on va retenir que t'as eu un échec. Alors qu'aux États-Unis, c'est une preuve que tu as essayé, tu vois.
De ouf.
Il explique aussi que, après je finis avec cet exemple, mais c'est pour te montrer à quel point c'est une question aussi de la mentalité dans le pays dans lequel on vit. Je crois que c'est à Boston. La fac de médecine de Boston, elle prend les gens qui ont eu plusieurs échecs, qui ont tenté plusieurs voies et qui maintenant veulent aller en médecine. Ils prennent plus ces gens-là que les personnes qui sortent du lycée et qui veulent faire directement médecine, parce qu'ils partent du principe que si tu as essayé, et ben c'est une forme de
résilience,
ouais,
quoi.
De volonté de faire des expériences avant d'aller dans la voie que tu veux, tu vois. Donc il faut aussi rappeler aux jeunes qu'on agit aussi par rapport à notre culture et à la mentalité qu'on nous a inculqué,
et qu'il n'y a pas d'échec, en fait. Enfin, c'est vrai.
Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences.
Ouais. Et ça, c'est super difficile. C'est quelque chose aussi que je partage beaucoup, alors que je pense que je ne suis pas encore 100% à l'aise avec l'idée d'échouer. Parce que c'est ce truc où, en fait, t'as l'impression que ça te définit, ouais, que ça te censure toi-même. Et je me demande si, en Amérique, ils arrivent vraiment, enfin, aux États-Unis, ils arrivent vraiment à avoir ce côté où ils vont échouer, et ça va vraiment être... Est-ce qu'eux-mêmes vont vraiment le ressentir comme « c'est pas grave, next ». Je suis pas 100% sûre non plus, je pense juste que peut-être qu'ils le vivent un peu mieux que nous, parce qu'ils savent que ça les définit pas aux yeux des autres, mais je pense que c'est jamais agréable en soi. Après, ce que j'essaie de me dire, même si sur des conneries, des échecs de merde, là je pense juste, tu vois, au fait que vendredi, j'ai pas pu prendre le train, enfin si, mais pas celui que je devais prendre à Londres, parce que j'ai voulu acheter des billets moins chers en ligne qui n'étaient pas à mon nom, et je me suis fait griller. Et en fait, c'est moi, je suis vraiment dans le truc de je vais m'en vouloir, ouais. Je vais ressasser le truc. J'essaie vraiment maintenant de me dire, Louise, tu peux rien y faire, avance, move on. Et franchement, ça va, j'ai un peu réussi à le faire. Tu vois, prendre du recul, la relativiser, de me dire, bah, qu'est-ce que je peux retirer comme leçon? Clairement, j'arrête de essayer de doubler le système. Sois honnête, ça paye toujours. J'ai pu bosser, du coup, en soi plus longtemps, parce que, du coup, j'ai une heure et demie à attendre le prochain train à la gare. Enfin, non, mais tu vois, et vraiment, le fait que j'en ai parlé aussi, je crois, sur le podcast et notamment sur Insta, le fait que quand je suis rentrée du Mexique cet été, j'ai raté l'avion. Et en fait, il m'est arrivé après une journée, mais incroyable, et que des concours de circonstances fortuits, où je me suis dit, putain, mais en fait, vraiment, tout arrive pour une raison, quoi. Et en fait, c'est peut-être lâche, mais c'est rassurant de se dire ça.
Ouais,
ça aide vraiment à se dire, et j'ai toujours pas mon avis sur le sujet à 100%, mais je pense quand même, je crois que j'ai lu en plus une phrase sur la story de quelqu'un hier sur Insta, quand les choses ne se passent pas comme tu le souhaites, remercie la vie, c'est qu'elle te donne un signe que c'est pas la bonne direction. Et je pense qu'il y a un truc de vrai là-dedans quand même.
Bien sûr.
Après, c'est à nous de l'interpréter et d'en être persuadé, mais je pense qu'il y a un truc de vrai.
Ouais, ouais, complètement. Et puis, comment dire? Je crois que j'ai rien à redire.
Non, mais je crois que là, c'est parce que t'es en hypoglycémie totale. Tu sais, moi, je ne comprends pas comment les gens peuvent oublier de manger ou ne pas prendre le temps de manger. Moi, je peux annuler un rendez-vous pour aller grailler.
Mais tu sais que moi, je mange énormément, c'est très bien. En fait, moi, j'ai un ventre un peu élastique, c'est-à-dire que parfois, je vais manger. Comme les gens qui font des... Comment ça s'appelle ?
10K Calorie Challenge.
Faut que je mange.
Vas-y. Non mais, vas-y, tu veux autre chose ? Parce que
non,
j'ai tout, hein.
Je prends des, ça.
Mais je trouve que ces céréales sont très bonnes. Elles sont
j'adore,
très chunky.
J'adore. C'est bizarre que j'ai pas faim. Il y a des fois où j'ai extrêmement faim, et là, bizarrement...
Non mais, ouais, alors que le cerveau en a besoin, donc tu ressens pas forcément la faim et...
Ouais, mon cerveau le ressent, par contre.
Ouais. Non mais c'est un vrai truc, hein. C'est pas pour rien qu'on donne aux sportifs tout de suite un truc après, bon, genre... Ouais. C'est vraiment l'essence du corps.
C'est pas trop de bruit dans le podcast.
Non, mais t'inquiète, c'est des bons bruits. Je pense que nos auditeurs et nos auditrices seront totalement d'accord. De toute façon, en vrai, ça fait déjà presque une heure, même si je pourrais grave rester longtemps parler. C'est grave cool, surtout que je trouve que c'est des sujets qu'on n'a pas encore abordés sur le podcast, et ça fait plaisir parce que...
On a parlé de bons sujets.
Ouais, on a bien divagué comme j'aime, donc ça fait toujours plaisir. Bah, du coup, je me demande, est-ce que... C'est un truc que j'aime bien demander, c'est est-ce que toi, il y a des ressources qui t'ont aidé dans ta vie? Parce que comme le thème de podcast, c'est « Prendre le pouvoir de sa vie », je pense qu'on a tous, tu vois, eu soit un livre, soit un film, soit n'importe quoi, tu vois, un article qui a pu t'aider à avancer ou qui a pu t'éclairer sur un point, et t'aurais peut-être envie de le recommander. Est-ce que t'aurais quelque chose?
Totalement. Et un gros truc. Pas un film, pas un livre, mais une retraite.
Ok. T'as fait Vipassana?
Non.
Ok.
C'était un peu... Non, c'était Bodhisattva.
Ok.
Bodhisattva. En gros, c'était une retraite méditative. Je suis partie avec ma mère en Suisse, dans les montagnes, cet été. Et en fait, au-delà du côté un peu spirituel, un peu... Moi, je suis pas du tout religieuse à aucun niveau. Je suis plutôt athée, même. Mais donc, au-delà du côté spirituel, en fait, juste le fait de se poser... d'être loin de tout, de se couper un peu et de se retrouver avec soi-même, ce qui m'était pas arrivé depuis longtemps, ça m'a fait énormément de bien. Parce qu'en fait, le problème aujourd'hui, c'est que, en fait, dans ma vie parisienne, même quand je suis seule, je suis pas seule. J'ai mon portable, je regarde un film, je suis jamais seule, en fait, tu vois, j'ai toujours une distraction. Mmh. Et là, en fait, c'est même pas tant la nature, bien sûr que la nature m'a aidée parce que t'es dans un cadre magnifique, mais vraiment au plus profond de moi-même, c'est le fait de me retrouver avec moi-même, d'avoir les idées en place et de me dire putain, je suis bien avec moi-même. Je pense que tu vois, quand à Paris, quand je me couche dans mon lit et que je reste 4 heures sur mon portable avant de me coucher, bah c'est peut-être aussi une peur de se retrouver avec soi-même, tu vois.
De fou.
Et là, en fait, de me dire putain, j'ai aucune distraction. Je suis toute seule dans la nature ou avec un calepin où j'écris mes émotions et je me sens bien, ça te fout une remontée d'estime de toi énorme, quoi. Parce que tu te dis, putain, je suis pas timide avec moi. Parce qu'on peut être timide avec soi-même. On peut ne pas s'avouer des choses, être dans le déni. Et ça m'a fait un bien fou. Ma mère a toujours été dans les trucs d'un peu développement personnel, tu vois, elle me met des CD de gens qui parlent du développement personnel, et en fait le fait qu'elle m'impose ça, je me suis jamais vraiment penchée.
Ouais, comme tout ce que nos parents nous imposent.
Exactement, ouais. Exactement. Et puis tu vois, je suis un peu chiante à ce niveau-là, mais les discours de bobo, je les catégorise un peu bobo, justement les trucs de bien-être et tout, et en fait je suis complètement bête d'avoir pensé ça, parce que j'ai ces mêmes discours maintenant. Je pense qu'il faut juste que ça arrive naturellement. Tu vois, moi, c'est moi qui ai eu cette envie de vouloir faire cette retraite. Parce que comme ma mère est à fond dedans, je me suis dit, bon, bah, tu sais quoi, maman, on va faire un truc. On va pas parler chinois, on va y aller franco. Mmh. On va faire une retraite pendant 10 jours. Et en fait, que ça vienne de moi-même, ça m'a... Et je pouvais pas mieux commencer cette année, en fait.
C'était une retraite silencieuse ou pas?
Alors, il y avait beaucoup de silence. C'était un peu moite-moite. Par exemple, tous les repas étaient en silence. On avait... 3 jours entiers, c'est-à-dire de la veille au soir au lendemain, en silence. Et en fait, c'est génial, parce que même, tu vois, le rapport aux gens, tu vois, le fait d'aller vers des gens juste parce qu'ils, je sais pas, ils ont des bonnes ondes. Parce que tu vois, moi, parfois, je vais pas aller vers des gens parce que j'ai pas envie qu'ils me parlent, ou j'ai l'impression que je vais pas m'entendre avec eux. Mais d'aller vers les gens juste parce qu'ils dégagent quelque chose de sain, de bienveillant, c'était génial. Et surtout que je me suis retrouvée aussi avec des gens... qui ont pas de stéréotypes, pas de clichés, pas de préjugés. Tu vois, par exemple, j'étais avec beaucoup de personnes de 50, 60 ans. Donc moi, je suis arrivée avec tous mes clichés de parisienne en mode « Ah là là, la flemme d'être avec des vieux et tout ». Et en fait, on parlait énormément. Et je me suis rendu compte qu'ils avaient un truc très intemporel, où l'âge n'avait pas d'importance, ne mettait pas de barrière. On parlait juste de bien-être, de ressenti, et ça m'a fait énormément de bien, et ça m'a enlevé tous mes clichés de parisienne con, tu vois. Et après, moi c'est mon truc qui m'a aidée. Ça peut être différent pour d'autres personnes, mais...
Ouais, bah j'en entends honnêtement que du bien.
Ah ouais.
Quasiment personne m'a dit « je regrette », tu vois.
Ouais.
Il y en a, ils l'ont mal vécu dans le sens où, bah, notamment la retraite silencieuse, et en fait Vipassana, c'était une retraite, hein, enfin... J'ai dit non parce que c'est un nom qui est connu. Et en plus, ce qui est cool avec Vipassana, c'est que c'est gratuit parce qu'en fait, c'est, ah ouais, les alumni, donc les anciens, qui financent le truc. En fait, donc c'est pour te dire que ça doit vraiment bien marcher parce qu'en gros, ils se reposent sur la satisfaction des gens qui l'ont fait pour un peu payer après leur expérience en finançant celle des autres. Donc je trouve ça génial.
Ouais.
Et voilà, apparemment, c'est donc 3 jours minimum, et je crois que ça va jusqu'à 7, où genre c'est silence total. 2 ou 3 repas végétariens par jour. Enfin, vraiment, t'as énormément de restrictions, mais en fait, apparemment, c'est là où j'avais retenu cette image de la personne qui disait, on a l'impression qu'en fait, on se déterre soi-même pour trouver la graine, parce qu'apparemment, le premier jour, t'es vraiment au seuil de la terre où l'eau arrive pas à traverser. Le deuxième jour, tu la dépoussières un peu.
Exactement.
Et le troisième jour, c'est vraiment genre, t'accèdes à un niveau de toi dont t'avais pas conscience.
Ah ouais, exactement.
Et alors, j'avoue que moi, pour l'instant, ça me fait vachement peur, parce que je suis vachement dans... cette recherche d'action, de continuité, c'est ça qui me drive. Mais je pense que je vais le faire soit l'année prochaine, soit l'année d'après. J'attends quand même d'être prête, tu vois, pour pas me forcer justement trop tôt. Mais je pense que, comme tu dis, ça doit changer la vie, quoi.
Alors, moi, c'est aussi ce que j'ai pensé parce que j'ai eu plein de phases dans cette retraite. Tu sais, j'ai eu une phase où j'étais un peu en découverte. Après, j'ai eu une phase où je me suis dit, bon, c'est bon, j'ai compris. En gros, faut pas parler.
Ouais.
Tu vois? Et après, t'as une phase où, en fait, tu te rends compte que l'action, elle est là, en fait. Parce que moi, j'ai eu la plupart de mes idées là-bas. La plupart de mes découvertes de moi-même là-bas. Et en fait, finalement, t'es dans une action silencieuse et inactive, mais quand même une action. En fait, tu actionnes des choses. Bah, qui était pas active, enfin, je vois très bien ce que tu veux dire, t'es pas dans l'action gestuelle,
tu enfin, t'es pas dans le checking de liste,
exactement,
tu vois.
Mais il y a tellement de choses qui bougent, paradoxalement, tu vois. Et après, il faut faire attention dans quelle retraite tu vas, parce que c'est très à la mode de faire des retraites, mais tu peux vite tomber sur des sectes, des trucs un peu chelous, donc faut vraiment que tu fasses du bouche à oreille, que des gens que tu connaisses t'aient conseillé. Et moi, ce qui était trop bien dans ma retraite, c'est que il y avait pas trop ce truc de restriction. En gros, les premiers, en fait, on avait par exemple le matin, on avait 1h30 de méditation. Pour moi, c'était trop dur les premiers jours parce que j'ai beaucoup de mal à m'asseoir et à méditer pendant 1h30. Et en fait, j'en ai parlé à une des organisatrices. Elle m'a dit, ah mais Anaïs, si tu n'as pas envie de venir à la méditation, tu ne viens pas. On est ici pour se sentir bien et on n'est pas contrairement, tu vois, à la religion qui est très dogmatique en général, il faut pas faire ci, il faut pas manger ça, il faut pas boire ça. Là, elle m'a vraiment ouvert l'esprit parce qu'elle m'a dit le plus important c'est le fond, c'est pas la forme, tu vois. Contrairement à la religion, c'est le fond qui est important. Si tu sens que tu n'as pas envie de méditer, voilà, tout ce qu'on te demande c'est d'être bien en fait.
Trop cool, et ça c'est génial, c'est bienveillant en fait.
C'est exactement bienveillant, tout à fait. Et ça m'a vraiment parce que je suis arrivée quand même avec mes petits préjugés, mes petits,
une peur.
Et en fait, on m'a complètement, totalement. Et on m'a enlevé toutes ces peurs, quoi.
Trop cool.
Voilà.
Du coup, j'ai te posé la dernière question du podcast, la question signature. Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie?
Waouh.
Alors, est-ce que t'as mangé assez de céréales pour pouvoir y répondre?
Okay,
c'est la question.
J'aurais dû boire du Red Bull. Alors, prendre le pouvoir de sa vie. Alors, je vais te répondre de manière un peu abstraite et un peu floue aussi parce que j'ai pas préparé la question, mais pour moi, prendre le pouvoir de sa vie, il faut le voir comme, en tout cas pour moi, c'est pas matériel, c'est pas prendre le pouvoir de manière dans l'action, c'est plus prendre le pouvoir dans sa tête. À partir du moment où tu sais que t'es en accord avec toi-même, que tu prends le pouvoir sur tes idées. Et en fait, attends. Pour moi, prendre le pouvoir, c'est pas forcément être à la tête d'une grande entreprise, d'avoir réussi à gagner ce prix, ce truc. Pour moi, c'est très personnel, quoi. Parce que tu peux être le gérant d'une grande entreprise, tu peux gagner 1000 Césars et ne pas prendre le pouvoir dans ta tête et être complètement, comment dire,
dépendant de quelque chose.
Et puis la plupart du temps, je pense que c'est ça aussi. Les gens qui prennent le pouvoir sur les autres, c'est des gens qui n'ont pas de pouvoir sur eux, tu vois. Magnifique cette phrase.
J'adore.
Tu vois ce que je veux dire ou
pas? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ils doivent rien aux autres, quoi.
Et à partir du moment où t'es en accord avec toi-même, pour moi, t'as pris le pouvoir sur toi et j'ai pas d'autre chose à redire. Hein,
Non, je vois ce que tu veux dire, un alignement, quoi.
Ouais.
Où t'es vraiment bien avec toi et t'as pas à t'excuser pour ça.
Je pense vraiment que c'est vrai. Les gens qui ont pas de pouvoir sur eux-mêmes, qui arrivent pas à se gérer eux-mêmes, ou en tout cas qui sont pas en accord avec eux-mêmes, bah du coup, vu qu'ils ont pas ça, ils vont prendre le pouvoir sur les autres et je sais pas, moi, Hitler, il avait tellement pas confiance en lui, il avait tellement pas de pouvoir sur lui, il était tellement pas heureux qu'il avait besoin de prendre le pouvoir sur les autres et à faire tous ces massacres, tu vois. Bon, c'est un cas extrême, mais je pense qu'il y a de ça quand même.
Ouais, se concentrer d'abord sur soi, en fait.
Et si ce pouvoir sur toi, il découle de prise de pouvoir, mais à bon escient, tant mieux. Tant mieux si ça se traduit comme ça, tu vois. Mais voilà.
Trop cool. Bah, merci beaucoup, Anaïd, d'être venue sur InPower. Ça m'a fait trop plaisir.
Cool.
Grave. Où est-ce qu'on redirige les personnes qui nous écoutent et qui veulent en savoir plus sur toi, qui veulent aller voir les petites vidéos dont tu nous parles?
Alors, mon Instagram, c'est anaïd.rosam. Et qu'est-ce que je peux vous dire? Il y a des projets qui arrivent. Je ne sais pas si je peux en parler, mais je suis en tournage le mois prochain pour quelque chose de très cool, mais je ne peux pas en dire beaucoup.
Pas de souci. Je le mettrai dans les notes du podcast si on a le droit d'en parler d'ici là.
Carrément.
Super. À très bientôt, Anaïd.
Merci
Bisous.
Beaucoup. Bisous.
Merci de vous être joint à nous pour cette conversation avec Anaïde. Si elle vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en partageant un post ou une story sur Instagram en nous taguant @anaïde.rosam et @mybetter-self pour que l'on puisse vous remercier personnellement. Vous pouvez également partager l'épisode autour de vous et aux personnes qui vous pensez pourraient l'apprécier et vous abonner sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Je vous dis encore un grand merci et j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour le tout nouvel épisode d'InPower.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.